Comme à tous les lundis, c'est avec plaisir que je l'accueille. Luc Lavoie, notre chroniqueur politique, je vais aller le rejoindre. Salut Luc.
Salut, hein.
Luc, le temps file, tu sais, à l'Assemblée nationale. Quand on compte la semaine de circonscription qui arrive très bientôt, eh bien, la semaine prochaine, en fait, eh bien, on découvre qu'il reste que 4 semaines à l'Assemblée. 4 semaines, dont 2 en session régulière, 2 en session intensive. C'est pas beaucoup de jours pour tout le menu législatif, notamment. La question de l'UPAC, les nominations évidemment de l'Assemblée, mais la nomination du patron de l'UPAC, il y a évidemment le projet de loi sur la laïcité, il y a la question de l'immigration, il y a la question des taxis, il y a la question du cannabis, où est-ce qu'on doit avancer une législation pour modifier l'âge, etc., etc. Tu vois ça comment comme fin de session, Luc?
Je pense que le gouvernement va être très heureux quand il aura fini par faire adopter son ignoble projet de loi 21 et qu'il aura réussi à faire adopter sa réforme de l'immigration. Sa réforme étant une réduction du seuil d'immigrants.
Ouais.
Alors, quand ces deux affaires-là vont être passées, le reste, je dis pas que c'est sans importance, mais ils veulent enlever ça sur leur agenda pour qu'on puisse parler d'autres choses. Et je pense que c'est ça qui est leur priorité. La question des taxis, tu vois, il y a une autre façon de regarder la question des taxis, c'est que Bonnardel, et je le dis en toute sincérité, il complète le travail qui n'avait pas été complété par le gouvernement précédent. Mm-hmm. Je veux dire, tout le travail avait été fait, là, puis les projets pilotes, puis ceci, puis cela. Mais à un moment donné, il faut aboutir. Là. Et ça, je pense qu'il devrait être capable de le faire adopter avant l'été.
Oui. Justement, juste pour reprendre la balle au bon, sur la question du projet de loi sur la laïcité, puis la vitesse à laquelle on veut adopter ça, puis on est pressé, puis j'entends le premier ministre répéter à nauseam qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut l'adopter puis passer à autre chose.
Et surtout, Rob, que c'est un projet modéré.
Oui, ben oui. Il y a personne qui pense que c'est modéré, là, sauf monsieur...
Non, mais lui, il dit.
Oui,
il
monsieur
dit,
Legault.
Ça doit être vrai.
Ouais. Il n'y a pas grand-chose de modéré quand on est obligé d'entrée de jeu d'utiliser la clause dérogatoire, puis qu'on...
Dans les deux chartes.
Voilà. Puis on dit, on reconnaît que ça brime des droits fondamentaux garantis dans nos chartes. On reconnaît ça. Puis on a tellement peur de perdre en cours qu'on va le mettre d'avance. Ça ne veut pas dire qu'on ne perdra pas en cours, mais on va le mettre d'avance. Puis comme si, puis surtout avec la clause crépusculaire de 5 ans sur la question de nonobstant, comme si, ah ben si on règle ça rapidement, ça va être derrière nous, on n'entendra plus parler. Je pense pas que c'est la réalité, mais politiquement, c'est sûr que c'est moins dommageable de faire adopter ce projet de loi-là en juin 2019 qu'en juin 2023. Ça, c'est bien certain, ou en 2022.
Oui.
Parce que là, on est
tu
à
vois,
quelques...
D'après moi, ils se font énormément d'illusions. Là.
OK.
Une fois le projet de loi adopté, ça va être le début, ça va être le carnaval, ça va être le festival international des recours juridiques sous toutes les formes. Ça va être un débat qui va se poursuivre.
Ouais.
Et à la lumière de ce que je lis, puis il faut toujours prendre ça avec un grain de sel, là, mais je regarde les réactions sur Facebook, sur ma page Facebook, entre autres, dès que je publie quelque chose qui a à voir avec ça. Je veux dire, les gens, ils vont être les identitaires, là, puis j'ose pas employer le vrai mot que j'ai en tête, là, les identitaires, ils seront pas contents quand ils vont voir ce projet de loi-là être mis en œuvre. Eux autres pensent qu'il va y avoir moins de voiles sur la rue. Ils se trompent, là, il n'y en aura pas moins. Hein. Ensuite, eux autres pensent que c'est fini, là, tu sais, il n'y a plus rien qui est visible sur le plan religieux. Ils se trompent, là aussi. Là.
Mm-hmm.
Je veux dire, ils rêvent en couleur totalement. Là, mm-hmm. Puis ils vont vivre avec leur projet de loi 21 jusqu'à la prochaine élection.
Mm-hmm.
Puis le 65% d'appui, d'après moi, il va s'étioler.
Mm-hmm.
Le monde va dire, on avait-il vraiment besoin de ça? Et en passant, je te confie qu'hier, j'ai vu, au hasard de la vie, deux anciens, je ne les nommerai pas parce que c'était privé, puis tout, deux anciennes gloires du gouvernement de René Lévesque, deux anciens ministres seniors du gouvernement de René Lévesque, qui étaient outrés par ça. Je vais employer les mots qu'un m'a utilisés, mais quelle honte! Si René Lévesque était ici, il serait furieux.
Mm-hmm.
Alors, c'est ça, la réalité.
Mm-hmm. Toujours à Québec, DPJ, là, on tente par tous les moyens de mettre sur pied, dans le fond, un groupe, une commission d'études, d'enquête, slash, peu importe, là, pour essayer de se donner un petit peu de temps à la DPJ. Tu penses quoi de ça?
Ben, d'abord, je pense que c'est nécessaire. Je pense que le drame de Granby a suffisamment ébranlé le Québec en entier. Je pense que c'est nécessaire qu'on revoie les pratiques puis qu'on revoie la façon de faire de cette institution-là. Mais le problème que je vois, c'est surtout que je pense qu'il y a cinq enquêtes en parallèle. Mm-hmm. L'enquête d'un tel, l'enquête d'un autre, l'enquête d'un autre. En bout de ligne, ce qu'ils veulent, c'est ce que je comprends, c'est une espèce de commission multipartite, sans aucune partisanerie, un peu comme l'aide à mourir, mm-hmm. et de mener ça vraiment d'une façon non partisane pour arriver à une solution, ou enfin à des projets de solution. Parce que c'est clair qu'il semble y avoir des failles à la DPJ.
Mais en lien avec ça, Luc, des failles à la DPJ, est-ce que la DPJ pourrait vivre avec plus de ressources? Bien sûr, mais l'histoire de Granby, peut-être j'en ai manqué des grands bouts, mais ça ne pointe pas vers une non-prise en charge de l'enfant. L'enfant a été pris en charge. Non. Non, ça pointe sur une décision du tribunal. De laisser l'enfant avec le père.
Mais le tribunal. Mais attention, Rock, le tribunal s'était basé sur quoi pour prendre sa décision? Sur le rapport et le témoignage de la DPJ.
Voilà, ça, c'est pas un manque de ressources. Ça, c'est une opinion.
Mais l'opinion, mais attention, là, l'opinion de la DPJ.
Oui.
Toi aussi, tu connais ça, le monde de la justice. Là. Je le dis tout bonnement. Là, j'ai une blonde, moi, qui est juge.
C'est ça?
Alors, ils sont habitués à ça, là. Tu sais, il arrive, puis la DPJ dit qu'il faut aller dans telle direction. Qu'est-ce que le juge est supposé faire?
Exactement.
De venir, comme on dit, double-guesser la DPJ? Non. Alors, le juge, dans ce cas-là, il doit pas être à l'aise dans ses culottes présentement. Hein?
Oui, mais tout ça.
L'absolution inconditionnelle à la mère, qui
ben,
la batte,
ça, c'est
tirée par les cheveux.
Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça,
il
l'absolution.
Il y avait encore la DPJ dans ça.
Oui, mais l'absolution inconditionnelle, c'est pas relié à la DPJ. Puis le fait.
C'est sur leur recommandation, Rock.
Pas l'absolution inconditionnelle.
L'absolution inconditionnelle, probablement pas, mais non. Le fait que c'était pas si grave que ça, oui.
C'est ça, mais poursuivons tout ça avec une prémisse, puis ça, c'est ça le débat de société qu'il faut avoir. Tout ça avec la prémisse que ça prend bien des affaires pour enlever un enfant à sa famille. Ça, c'est la prémisse
dans
la loi.
C'est relativement normal, là,
ben oui.
L'approche ultra prudente.
C'est ça. Fait que moi, j'ai hâte de voir le résultat des courses, parce que, ben d'accord, là, faisons une commission là-dessus. Moi, j'ai eu la chance, dans une ancienne vie, même avant la politique, là, j'ai siégé pendant 9 ans de temps sur un conseil d'administration de DPJ.
Je savais pas.
Ouais. Puis, j'ai bien hâte de voir, moi, les conclusions. Puis, je le répète, je finis avec ma première phrase. Bien sûr que la DPJ pourra avoir plus de ressources. Cela étant dit, quand on va finir...
Mais, Rock, je t'arrête là. L'affaire d'avoir plus de ressources, là,
ouais.
Pour te dire le vrai, ça commence à me taper sur les nerfs.
Ouais.
Pour avoir la récréation de 20 minutes de 2 fois par jour, ça prend plus de ressources. Pour enseigner l'éducation sexuelle, ça prend plus de ressources. T'écoutes ce discours-là, à un moment donné, tu viens fou. Tu veux dire, c'est rendu que la moitié du Québec travaille pour le gouvernement.
Mm-hmm. Ouais. Mais là, avec les listes d'attente...
Je suis pas sûr que c'est un problème de ressources. Moi, je pense que c'est un problème d'organisation. Je pense que c'est
peut-être.
Un problème d'attitude.
Peut-être un mix de tout ça, parce que le nombre de signalements augmente. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir où ça va pointer, là, parce que je pense que tu as raison, que ça va pas finir, qu'il va y avoir une solution, puis que tout va être réglé. Mais il va falloir remettre beaucoup en question cette prémisse-là. Là, parce que combien de fois... Moi, j'entends les deux discours. Combien de fois on entend des familles dire « ça n'a pas de bon sens, DPJ m'a enlevé mon petit ». Combien de fois on entend
oui,
ça? Hein?
Mais non seulement ça, Rock, dans la loi qui a créé la DPJ à la fin des années 70, c'est écrit qu'un des buts recherchés, c'est de réunir les familles naturelles.
Bien sûr.
Donc, il y a une obligation légale. C'est avant de pointer le doigt vers la DPJ. Moi,
c'est
je vais
ça.
Te confier aussi une chose. Un jour... Pour un problème familial assez lointain, mais peu importe, j'ai eu recours au service de la DPJ pour donner un coup de main. Ils ont été exemplaires. Je ne peux pas dire le contraire, ils ont été exemplaires.
Mm-hmm.
Alors, ce n'est pas tous une bande de gnochons.
Non, pas du tout. Pas du tout. pas du tout. C'est dommage que c'est encore un drame qui suscite cette réaction-là, par exemple. Mais j'ai bien hâte de voir. On va s'en aller au fédéral, Luc. On en a parlé la semaine passée avec d'autres collaborateurs. L'affaire Norman. Ça, c'est le numéro 2 de la défense qui a été traîné dans la boue, qui a été accusé dans le cadre d'un dossier de contrat pour un bateau. Et on l'accusait d'avoir coulé de l'information, etc. Finalement, le gouvernement, la poursuite enlève les charges contre lui. C'est un homme libre, meurtri mais libre. Et deux écoles
qui
de pensée.
Qui s'apprête probablement à déposer une poursuite civile qui va réclamer des millions et des millions.
Probablement, oui. Et la question, c'est, et j'utilise très certainement un mauvais escient le terme, mais à qui sert le crime? Est-ce que M. Trudeau est plus fort maintenant qu'il n'est pas, il est pas pris avec le procès pendant la campagne électorale? Ou est-ce que c'est pire parce que ça semble être un genre de cover-up encore?
Je veux dire, il n'y a rien qui... C'est comme on dit en termes de hockey, la POC roule jamais pour lui. S'il y avait eu le procès, ça aurait pu être terrible. Il n'y a pas eu de procès, mais ils ont l'air d'avoir... Ils ont l'air d'avoir taponné là-dedans.
Ouais.
Et puis, tu sais, il y a une grande question qui se pose, là, qui s'est souvent posée. Là. Disons que tu es la GRC. Là. Puis l'appel que tu reçois vient du conseil privé. Donc, c'est le ministère du premier ministre, là. Puis ça dit, écoute, telle affaire dans l'octroi de contrat, peux-tu jeter un coup d'œil là-dessus? Nous autres, bon. Là, la police fait son travail, sauf qu'elle le fait en sachant que ça fait plaisir en haut. Hein.
Mm-hmm.
C'est con à dire, là, mais c'est fou de même. Les humains sont des humains. Là.
Mm-hmm.
Et c'est là que l'interférence arrive. Là, t'sais. Pourquoi la GRC a poursuivi une enquête qui, de toute évidence, n'était pas bien ben solide?
Mm-hmm.
Je veux dire, quand même... Là. Alors ça aussi, ça leur pend au bout du nez. Est-ce que ça donne l'impression d'une gang de monde qui ne savent pas ce qu'ils font?
Puis toujours dans le même film de Bureau du PM qui joue dans le processus judiciaire / SNC-Lavalin.
Ouais. Tu sais que là-dessus, toi et moi, on a des vues différentes. Là,
complètement, oui.
Mais néanmoins... On le fait dans le respect, c'est beau.
Tout à fait! En parlant de respect, hey, je suis content que tu me lances là-dessus, Luc. En parlant de respect, les conservateurs ont lancé, entre autres, des publicités radio, mais télé aussi, pour des publicités négatives, là, à l'américaine, pour démoniser Justin Trudeau. Efficace ou non?
Mm-hmm. Quand c'est bien utilisé, la publicité, ça peut être extraordinairement efficace. Quand c'est mal utilisé, ça peut avoir l'effet d'un boomerang. J'ai vu cette publicité-là pour la première fois hier. Elle est assez efficace. C'est ce qu'on appelle dans le jargon politique une tentative de définir son adversaire, de le dépeindre d'une certaine façon. Et en ce sens-là, j'ai trouvé la publicité plutôt efficace maintenant. La publicité, c'est un outil que peu de gens comprennent, enfin ceux qui ne travaillent pas là-dedans. La publicité, ça marche par répétition. Un spot, ça frappe l'esprit, pour l'oublier. Quand ça fait 25 fois que tu le vois, ça s'imprime. Alors, il va falloir voir quelles sommes ils ont dépensées en achats médias pour voir s'ils sont capables d'avoir un réel impact. Mais s'ils le font massivement et que la publicité est bien faite, ce que j'ai l'impression qui est le cas, je l'ai vu juste une fois, ça peut être dévastateur. Oui.
Excellent. Ben merci, bonne semaine, puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, Luc.
Salut.
OK, bye. Luc Lavoie, notre chroniqueur politique.